Bienvenue sur le podcast Un temps pour naître. Je suis Edwige et dans la vie, je suis accompagnante périnatale. Qu'est-ce que c'est que ce métier ? Eh bien, mon rôle, c'est d'apporter du soutien, une oreille attentive, une épaule soutenante, du bien-être, des informations et des outils aux futurs et jeunes parents dès le désir d'enfant. Vous l'aurez compris, c'est un métier passion que j'exerce à Vannes, en cabinet et en visio, depuis 2020. En fait, ce qui me passionne, moi, c'est l'humain. Et c'est fou comme ce passage du devenir parent peut être à la fois si chamboulant, transformateur et en même temps si tabou. Alors pour dépasser le cadre individuel, je m'appuie sur les grands questionnements et les réflexions issues des accompagnements pour vous partager un épisode chaque mardi. Bonne écoute! Aujourd'hui Marie, tu es invitée dans le podcast, donc avec ta communauté, bienvenue à toutes et à tous. Et on va parler d'un sujet bien spécifique, l'arrivée du deuxième enfant dans la famille.
C'est ça.
Voilà, donc Marie, dans un premier temps, on va pouvoir se présenter, comme ça bah, les personnes qui sont sur ton compte vont pouvoir me découvrir, et inversement, je te propose de commencer.
Eh bien, merci. Du coup, donc Marie, alias Parenthème sur les réseaux, pour ceux qui me connaissent via Instagram principalement. Donc, je suis accompagnante parentale. Je travaille avec les parents de jeunes enfants, on va dire, jusqu'à 6 ans, qui peuvent rencontrer des difficultés avec leurs enfants, d'ordre relationnel principalement. Et je travaille aussi beaucoup sur le sommeil de l'enfant, de la naissance jusqu'à 5 ans à peu près, où j'accompagne aussi les parents qui rencontrent des difficultés à faire dodo. Donc voilà, et à côté de ça, je propose par chez moi, donc, puisque je ne suis pas très loin de Rennes, des ateliers aussi avec bébé, donc massage bébé, réflexologie, bébé émotionnel, voilà.
Merci pour ta présentation. Je vais passer à moi. En fait, on est très complémentaires. Donc, moi, c'est Edwige. Je suis à une heure de chez toi, à Vannes. Donc, on est toutes les deux bretonnes. Et accompagnante toutes les deux, moi, je suis plus spécialisée sur le périnatal, là où toi, tu es plus sur le parental. Donc, c'était un bon sujet, je pense, pour être très complémentaire. J'accompagne en cabinet et en visio autour de la question du devenir parent. Donc moi, je ne vois pas trop les bébés, pour ma part, je vois plutôt les adultes, dans la période de préconception, pendant la grossesse et en postpartum, également dans certaines situations plus particulières ou plus complexes, comme un deuil périnatal, une IVG, la prématurité, etc. Donc on est vraiment sur la question de devenir parent et tous les tenants et aboutissants. Donc, je travaille au cabinet essentiellement dans la partie échange et soins. Là où en visio, bien sûr, c'est vraiment une partie échange bienveillant, où on partage des informations. Je suis là pour écouter, un peu comme toi aussi, je pense, sur la période de parentalité, un peu plus tard que moi, quoi.
Oui, c'est ça, exactement. On se complète bien, donc... C'est très bien.
Génial. Et je disais, donc l'épisode va être retranscrit dans le podcast. Je suis aussi créatrice du podcast Un temps pour naître, qui parle de tous ces sujets, de réflexion autour de la parentalité côté périnatal ou parental. Donc aujourd'hui, on parle du deuxième enfant. C'est tellement complexe comme sujet qu'on va cibler, parce que c'est un enjeu et un questionnement à plusieurs niveaux. Personnel en tant que qu'humain et que quelqu'un qui devient parent, pour la fratrie, pour le couple, pour la famille au sens large. Et puis ça dépend des situations, que ce soit une famille composée de façon classique, des parents et puis des enfants issus de ces deux parents, ou alors une famille recomposée. Il y a beaucoup de situations possibles. On ne va pas pouvoir bien sûr faire du cas par cas, mais on va être vraiment sur du global, et bien sûr on reste dispo pour discuter très personnellement de ces sujets avec vous. Moi je vais plus aborder la partie avant la conception, au moment de la conception et au temps de la grossesse, là où toi peut-être tu vas pouvoir prendre le relais sur l'après, et notamment la question du sommeil, hein, t'attends au tournant.
oui c'est ça, plutôt sur la vision du parent, sur l'annonce de la grossesse, pendant la grossesse, comment impliquer l'aîné, et puis après aussi, quand le bébé est là, comment gérer, essayer de gérer au mieux, tant qu'on peut.
Parfait, merci pour ça. Bah, du coup, je vais commencer. On commence dans l'ordre chronologique et puis n'hésite pas à me compléter parce que toi aussi tu accompagnes et tu auras peut-être des observations. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a plein de situations différentes et surtout avoir un deuxième enfant représente des enjeux multidimensionnels. Donc, déjà par rapport à la question du choix d'avoir un deuxième enfant, ou pas. Donc il y a vraiment cette question de désir qui peut émerger rapidement après l'arrivée du premier ou pas. Donc déjà, c'est pas du tout les mêmes questionnements si on a un petit enfant en bas âge ou si on a un enfant plus grand. Bien sûr, ça va pas représenter les mêmes enjeux, que ce soit immédiatement quand la grossesse arrive ou même plus tard, en fait, dans la croissance des enfants et dans le rôle de parents. C'est voilà, c'est très varié d'une famille à l'autre. Autant j'entends beaucoup de personnes qui veulent avoir des enfants rapprochés. Parfois aussi, c'est pas vraiment un choix quand, par exemple, la parentalité arrive tard, par choix ou par non-choix. Parfois, les personnes vont mettre du temps à avoir des enfants. Eh bien, l'arrivée du deuxième pose question peut-être un peu plus tôt. Et puis, ça peut être un choix très, très conscient et voulu d'avoir des enfants rapprochés pour plein de raisons différentes. J'entends, tant qu'on est dans les couches, on y reste. C'est des choses que tu entends aussi, peut-être.
Oui, mais c'est vrai qu'il y a les deux visions, quoi. Et à
Ouais.
côté de ça, on entend aussi, bah, on profite du premier, on prend le temps avec le premier jusqu'au bout, et puis on verra le deuxième un peu plus tard, quand on aura un peu dormi entre les deux, justement.
Ouais. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve qu'il y a vraiment deux écoles. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Le bon choix, c'est le bon choix pour soi. Hein. Autant ça peut être très chouette d'avoir des enfants rapprochés, autant c'est ultra fatigant, faut savoir le dire. Hein. Même si c'est pas une fatalité, ça représente quand même un moment très condensé et très soutenu dans le rôle de parent d'enfant en bas âge. Et d'avoir plus d'espace, ça peut être très chouette aussi. Et en même temps, il y a la question de la complicité entre les enfants qui pose souvent question. Et j'ai aussi l'observation que finalement, on est très influencé par la façon dont nous, on a vécu notre enfance et notre fratrie, comment se sont comportés nos parents. Et très souvent, je vois la volonté soit de reproduire un schéma qui nous a bien convenu. Par exemple, j'ai 1 an d'écart avec ma sœur, c'était vraiment cool, j'aimerais bien pouvoir offrir ça à mes enfants. Ou mon compagnon, idem, il a une grande fratrie, moi je suis fille unique et j'aimerais bien apporter ça. Ou alors, à l'inverse, faire différemment de ce qu'on a pu recevoir. Bah, justement, je suis fille unique, je me suis ennuyée. Donc là, je parle au féminin, mais ça peut être aussi une question très masculine, hein, l'arrivée du deuxième enfant, enfin, c'est partagé dans le couple. Donc du côté féminin, du côté masculin ou du coparent. Donc voilà, il y a vraiment une question autour de nos projections inconscientes par rapport à notre histoire. Que ce soit notre histoire personnelle en premier lieu, parce que bien sûr, on se réfère d'abord à ce qu'on a pu vivre quand on a eu des frères et sœurs. Peut-être qu'on est le dernier, peut-être qu'on n'a pas de frères et sœurs. Donc tout ça, ça va venir influencer la question du désir d'enfant et de la place du deuxième aussi. Moi, j'entends, je ne sais pas si ça te parle, j'entends des femmes ou même des hommes, hein, qui ont été deuxième enfant et qui redoutent un peu parce que ce n'est pas une place hyper confortable. Surtout quand il y en a un, deux, trois par exemple, et ben le premier c'est l'aîné, le dernier c'est le petit dernier. Et moi j'étais un peu entre les deux. Je sais pas si tu as des retours comme ça ou si ça t'évoque quelque chose.
Pas sur vraiment la deuxième place. Enfin, moi, j'ai pas eu vraiment de retour là-dessus exactement, mais par contre, sur ce que tu disais avant, sur le fait de se projeter au niveau de sa propre histoire, oui, ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'entends aussi beaucoup de la part des parents. Oui.
Ah oui,
Tout à
que
fait.
la place de l'enfant est la leur dans leur fratrie, quoi.
Voilà, soit on cherche effectivement à reproduire, soit on cherche à surtout ne pas faire ce qu'on a vécu. Et c'est vrai que je trouve aussi qu'il y a une certaine pression de la famille où il faut aussi un petit peu voilà prendre du recul et justement par rapport aussi à ce que nos parents ont pu nous dire sur ah bah moi j'ai eu deux trois enfants c'était comme si c'était comme ça bon c'est des histoires différentes chacun son histoire mais c'est vrai qu'il y a aussi cette pression alors soit de pression de bon t'es à peine sorti de la salle d'accouchement que limite faut déjà remettre le deuxième en route ou à l'inverse enfin il y a beaucoup de jugements je trouve déjà sur la famille, puisqu'en fait, nos parents aussi projettent aussi leur histoire sur notre famille, je trouve. Je ne sais pas si tu as vécu ça, mais c'est
Totalement.
pas facile de distinguer les histoires de tout le monde.
Ouais, c'est quelque chose de très récurrent, effectivement. Les attentes des proches et de la société en général. Donc ça me fait penser, j'avais pas forcément pensé à ça avant qu'on, enfin pendant qu'on a préparé ce live, mais la question du genre. Hein?
Si, ouais.
Donc tu as eu un garçon, bon ce serait bien d'avoir une fille, le choix du roi, ou l'inverse surtout. T'as une fille, bon, ce serait bien d'avoir un garçon. Donc, y a la question du genre. Et puis, personnellement, peut-être aussi, on peut avoir des attentes en fonction du premier enfant qu'on a eu. Quelle projection on peut avoir pour ce deuxième enfant. Et dans le couple aussi, est-ce que c'est un désir qui est partagé? Est-ce que vous êtes raccord sur le fait que vous souhaitez tant d'écart entre les enfants? Et peut-être que parfois aussi, il y a un des deux membres du couple qui aimerait avoir un autre enfant et pas l'autre. Ce que je peux observer aussi, c'est quand l'arrivée du premier enfant a été particulièrement brutale, difficile, pénible, en postpartum. Enfin voilà, on a pu côtoyer des états de sommeil, de fatigue extrême, ou alors voilà, des enfants qui ont des particularités. Parfois, ça peut être difficile de sauter le pas. Pour un deuxième enfant, on peut être comme partagé entre un désir d'avoir un deuxième enfant dans la famille, et en même temps, renquiller sur potentiellement quelque chose qui ressemble à ce que j'ai vécu, ça peut être difficile. Donc ça, peut-être
oui,
que tu
tout à
en
fait.
entends parler aussi en
Bah,
accompagnement.
surtout au niveau du sommeil, en fait. Il y a beaucoup de parents qui ont peur de revivre la même chose qu'avec leur premier. Donc, moi, je leur explique bien que justement aussi, bah, voilà, chaque histoire est différente, chaque grossesse est différente, chaque accouchement est différent. Toi, tu accompagnes encore plus là-dessus, donc tu dois bien voir aussi les nuances, mais... Et à l'inverse, des parents hyper confiants qui se disent wow, « Waouh, nickel, le premier easy, ce sera nickel le deuxième. » Attention, chaque enfant est différent. Et qui se font un petit peu surprendre parce que bah, « Ah bah oui, mais le premier n'était pas comme ça. » Et je pense que fatalement, on est forcément dans la comparaison. Et ce sont deux personnes différentes avec deux histoires différentes, deux bagages différents. Et ça, ce n'est pas toujours évident à comprendre, quoi.
Ouais. Et je pense qu'il faut le vivre pour le comprendre de toute façon, parce que les projections, c'est de l'imaginaire, et le fait de le vivre, on est toujours, toujours surpris, quoi. Donc ça fait une belle transition par rapport à autre chose que j'avais besoin d'évoquer aujourd'hui. C'est les avantages et les inconvénients. Enfin, c'est pas vraiment les avantages et les inconvénients, mais l'enjeu d'avoir un deuxième enfant. Il y a vraiment d'un côté, j'ai déjà une expérience. Si c'est encore une fois un schéma, on va dire traditionnel, où les deux parents sont les parents de ces deux enfants-là, mais c'est bien différent si c'est une famille recomposée, hein, j'entends, parce que ça reste une nouvelle expérience du coup, même si on a déjà vécu une partie de l'expérience d'un côté ou de l'autre, ben voilà, ça reste quand même, on repart à zéro avec un nouveau conjoint. Là, dans une même composition parentale, d'un côté, on a l'expérience du premier enfant, et donc on sait ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas, et en même temps, bah, du coup, on tire aussi leçon. Donc moi, c'est quelque chose que j'encourage avant l'arrivée d'un deuxième enfant, ou pendant aussi, c'est de faire le point, peut-être en étant accompagnée par soi ou par moi, selon la thématique, sur ce qui a été OK, ce qui a été chouette, là où on a eu des manquements, on s'est peut-être pas assez renseigné, ou alors on n'a pas été forcément très bien accompagné sur certains sujets, que ce soit autour de la grossesse, de l'accouchement aussi, c'est un gros enjeu. Si l'accouchement a pas forcément été bien vécu, ça peut nous faire freiner des cas de fer, en fait, ou même si la grossesse s'est pas très bien passée à certains endroits, ou on l'a pas forcément bien vécu, même si elle s'est bien passée, c'est deux choses différentes, ça peut venir teinter la question de l'appréhension du deuxième enfant.
Oui, totalement.
Donc il y a une expérience qui est là. Je pense qu'une des clés, c'est pour le vivre le mieux possible, c'est de faire le point en fait sur cette expérience, que ce soit seul, en couple bien sûr, les mamans solo sont quand même les bienvenues évidemment, mais la plupart du temps, il y a une question de couple avec un accompagnement, quoi. On peut vraiment faire le point ensemble, permettre de prendre du recul aussi, de tirer le bon. Et en même temps, un deuxième enfant, c'est pas une réécriture de la première expérience, même si on sait changer une couche, ça c'est cool. Il y a des choses qu'on n'aura peut-être pas besoin de réapprendre, quoique. Il y a des choses, on va se dire, ah ben non, je sais plus du tout faire ça, j'ai perdu la mémoire. Et en même temps, ce deuxième enfant, il est là pour nous permettre de redécouvrir aussi la parentalité. Donc c'est toujours une nouvelle expérience. Moi, j'aime bien l'image T'as un point A, t'as le point B, t'as pris un chemin pour arriver au point B, comme quand tu mets ton GPS, mais tu regardes sur ton GPS, t'as toujours des itinéraires bis. T'as plusieurs itinéraires pour arriver à ton point. Et autant il y a des chemins, ça ressemble, autant il y en a, ça ressemble pas du tout. Donc il se peut qu'il y a des choses que vous ayez vécues de façon très fluide, voire presque totalement, c'est passé crème, vous n'avez même pas pris conscience de certaines choses pour le premier. Bah, pour le deuxième, ben, là, ça peut questionner un peu plus. Inversement, il se peut que vous soyez freiné par des choses que vous avez vécues et qui n'ont pas été cool, qui finalement ne se réitèrent pas, soit parce que vous avez fait ce qu'il faut pour ça aussi, vous êtes préparé différemment, ou soit parce que ça ne se réécrit pas de la même façon, tout simplement, quoi.
Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est intéressant de faire bien la distinction entre ces deux grossesses en tout cas et qu'on fasse pas forcément l'erreur en tant que parent de se dire que ma deuxième grossesse va venir réparer cette première qui s'est peut-être oui mal vécue parce que le deuxième enfant ne doit pas être le pansement du premier ou du vécu du premier. C'est une sacrée responsabilité pour lui déjà, je pense. Et puis nous on se met aussi du coup beaucoup de pression. C'est pour ça que c'est important de faire la paix, comme tu dis, dans un premier temps avec notre premier enfant et tout ce qui s'ensuit autour, et d'aborder cette deuxième grossesse comme quelque chose de complètement différent. Et ça, c'est pas facile, parce que quand tu as encore des vécus qui sont pas encore cicatrisés, même parfois plusieurs années après, et là, enfin, je pense qu'il y a beaucoup de mamans dans ce cas-là, c'est. Ouais, on se dit forcément, bon, notre deuxième va venir réparer tout ça, mais pas forcément.
Ah, c'est intéressant que tu en parles. Moi, j'ai tendance à dissocier le vécu des parents et le vécu de l'enfant. C'est-à-dire qu'il se peut qu'il y ait une sorte de catharsis, un besoin de réparation sur l'expérience de maternité et que, en soi, c'est pas forcément négatif hein, de se dire, bah voilà, j'ai vécu un accouchement pas du tout celui que j'aurais voulu. Pour le deuxième enfant, j'ai envie de me préparer pour me laisser la chance de vivre autre chose. Disons que c'est pas l'enfant qui vient faire le pansement, c'est plutôt cet enfant me permet de revivre la phase de maternité, quelle qu'elle soit, et de réécrire un récit différent pour moi, en tant que femme qui porte
Tout
la
à
vie.
fait.
Donc le fait de bien séparer l'enjeu pour soi et l'enjeu de l'enfant, c'est aussi ça qui permet de pacifier et de pas tout projeter sur l'enfant, quoi.
Tout à fait.
Ça te parle.
Oui. Tout à fait.
Ce que je tiens aussi à glisser là, ça fera pas forcément un sujet à part entière, mais c'est que l'arrivée de la grossesse, la question de la fertilité et de la concrétisation enfin, voilà, du projet bébé, elle n'est pas forcément identique d'un enfant à l'autre. Il se peut, et je le dis parce qu'on peut se dire que ça n'existe pas ou que ça n'arrive qu'aux autres, mais il se peut qu'on soit tombé enceinte assez facilement pour le premier. Et que pour le deuxième, ce soit un peu plus long, pour plein de raisons différentes. Ou inversement, ce que je vois aussi assez régulièrement, je dois le dire, c'est des parents qui ont galéré pour le premier. Et la grossesse pour le deuxième arrive très très rapidement. Et alors voilà, juste le message, c'est quel que soit votre profil, ne vous attendez pas forcément à ce que ce soit exactement comme pour le premier. Parce que bah, la vie peut être surprenante d'un scénario comme de l'autre. Voilà, j'avais besoin de le glisser parce que
C'est
oui,
vrai.
ça peut être perturbant, quel que soit le scénario, ça peut être perturbant de dire ah bah là, c'est pas du tout comme pour le premier, et soit je suis nulle, ou soit mais on n'était pas prêt, ou tout un tas de projections comme ça, et bon.
Et on peut être tout autant surpris et peut-être parfois même dans le mauvais sens d'une arrivée trop rapide. On culpabilise. On se dit, oh là là, mais tous ces gens qui essayent d'avoir des enfants, qui galèrent, etc. Et en fait, boum, ça vient direct. Et en fait, on n'est pas super prêts. Donc, on peut autant mal vivre une arrivée rapide, je trouve.
Exactement. Ça fait l'objet d'un des podcasts que j'ai fait, quand la grossesse arrive trop vite, entre
Trop
guillemets.
vite.
Ouais. Oui, parce que là, j'ai l'exemple d'une femme que bah, très récemment, je viens de voir en accompagnement. Et en fait, bon, bah, ce premier, on a mis 1 an et demi à le concevoir. Donc, bon, bah, les essais, on va les lancer au bout de 6 mois. Pour le deuxième, parce que de toute façon, ça va pas prendre, quoi. Et en fait, elle est tombée enceinte tout de suite. Donc, bah, on peut ne pas se sentir prêt, parce qu'on se dit que ça va prendre tant de temps. Alors ça se peut hein, que ça prenne encore du temps, mais pas forcément. Et donc, moi je remarque beaucoup ça, ou alors, autour de moi, on a beaucoup de gens qui galèrent, donc on va commencer à essayer avant qu'on commence à sentir une déception ou une impatience, et ça peut arriver plus vite que ce qu'on a imaginé, quoi. Donc, voilà, petit aparté, oui.
Je ne sais pas si tu voulais en parler aussi, mais il y a quelque chose dont mes parents, moi, d'aînés, du coup, me parlent beaucoup. C'est le fait que le deuxième enfant, enfin, qui ne se projette pas forcément sur le fait que le deuxième enfant va venir bouleverser toute leur routine, en fait, déjà mise en place. Et que pour un premier, en fait, tu apprends, donc tu fais, tu découvres, tu mets plein de choses en place. Et une fois que tout est en place, tu te dis, OK, c'est bon, j'ai ma routine, j'ai mon truc, j'ai mon organisation. Et en fait, on a tendance à penser, je pense, que le deuxième va suivre. Et donc, c'est, comme on disait tout à l'heure, c'est pas forcément parce que déjà, c'est un autre bébé, c'est une autre personnalité. Et en fait, ça vient casser le château de cartes, en fait, qu'on s'était construit. Et c'est pas évident, alors, tant pour le sommeil que même pour tout, pour les horaires, pour l'alimentation, pour les nuits, pour le quotidien. Ça va venir vraiment tout bouleverser. Et je pense qu'il y a des parents qui ne s'attendent pas à ce que ça se rebouleverse une deuxième fois, comme la première fois où ça a été quand même un gros tsunami, généralement, pour la plupart. Et donc, ce n'est pas facile de rebattre les cartes, en fait. C'est vraiment, pour moi, on repart à zéro quelque part, quoi. On repart à zéro, c'est une nouvelle famille. On reconstruit à nouveau, donc on repart de zéro.
Oui, bah c'est même très différent du premier, parce que le premier, on part sur un terrain vierge. Presque vierge. Pour le deuxième, ça demande à s'adapter au fait que bah, y a des choses, on va réitérer, ça va fonctionner, et d'autres, pas du tout. Et donc, ça va nous demander à décortiquer, déconstruire un peu ce qui fonctionnait pour le premier, et à créer autrement, alors même qu'on avait pris une routine, on avait pris des réflexes, des habitudes. Donc, bien s'attendre à ce que ce deuxième enfant vienne nous refaire découvrir certaines choses. Plus on l'accepte et plus c'est acceptable, enfin plus facile à vivre, oui, disons quoi. Mmh. Et pas se dire on a un problème, c'est qu'on fait mal. Ben non, c'est simplement que pour cet enfant-là, ben c'est pas le même tempérament. Peut-être qu'il peut avoir des douleurs que le premier n'avait pas ou inversement. Mmh. Donc voilà, c'est toujours une surprise. Tu as raison.
Ouais, c'est pas facile de se le dire, je trouve. Et dans le couple aussi, du coup, parce que pareil, on a remis aussi une routine en place aussi à deux. Peut-être que notre enfant est un peu plus grand, que de temps en temps on peut le faire garder, que voilà, qu'on retrouve peut-être un peu plus de moments à deux. Et bon, d'abord on repart un petit peu de zéro, et c'est pas facile de se dire qu'on va resacrifier peut-être un temps, en tout cas le temps que bébé a besoin. C'est d'où l'intérêt d'être vraiment raccord aussi. Mais voilà.
Ouais. Bah, y a plein d'enjeux, effectivement, que j'avais envie d'aborder autour de ça. Je ne sais pas si toi, c'est des choses que tu entends, mais j'entends souvent... Alors, la question de la place du grand, quoi, celui qui est le seul et l'unique. Comment je vais être capable d'aimer ce deuxième enfant et lui faire autant de place, déjà? Comment c'est possible de... multiplier cet attachement, cet intérêt pour quelqu'un, et surtout, alors, le mot que j'ai entendu récemment, c'est « il va se sentir trahi ». Parce que je ne vais plus lui consacrer autant. Et ça, il peut y avoir cette peur que l'aîné le vive mal. Est-ce que ça, c'est quelque chose que toi, tu retrouves aussi?
Oui, bien sûr. Oui, cette peur de trahir son premier. C'est vrai qu'on entend beaucoup... l'amour ne se divise pas, il se multiplie, etc., etc. Après, alors bon, je sais pas, j'ai qu'une fille bon, pour le moment, mais je sais pas toi dans ton vécu, mais enfin notre premier reste toujours notre premier, je pense quand même, enfin sans faire de différence d'amour, on a tout autant d'amour, je pense, pour notre deuxième, notre troisième, mais notre premier, c'est notre premier, c'est celui qui nous a fait devenir mère, père. Et sans se dire qu'on l'aime plus, mais je pense qu'il y aura toujours quand même un lien différent. Enfin, après, il y aura d'autres liens qui vont se construire avec les autres, mais ce premier enfant, il est quand même particulier. Après, moi, j'aime bien dire aussi qu'on construit une fratrie. Donc, on va pas le trahir, au contraire, on va aussi lui donner l'opportunité de créer de nouvelles relations, créer une famille avec d'autres échanges, d'autres... Hein, il va, c'est plus, soit tu joues tout seul, soit tu joues avec les parents. Là, tu vas avoir un petit frère, une petite sœur, tu vas créer d'autres relations, tu vas découvrir aussi en toi d'autres capacités. Ça va aussi l'aider à grandir. Et pour moi, c'est un cadeau aussi qu'on lui fait. Alors, attention aux parents qui souhaitent qu'un seul enfant, c'est pas du tout l'idée de dire qu'on ne peut pas le faire avec un seul enfant, parce qu'on peut aussi inviter plein d'enfants chez soi et avoir, enfin, au travers des amitiés aussi et puis de la famille, des cousins, des cousines, reproduire aussi ce schéma-là. Mais j'aurais tendance à dire qu'on vient, aussi lui offrir une opportunité de se développer différemment, autrement. Et pas justement de te dire bah, t'es relégué, t'es abandonné, t'es trahi, mais plutôt essayer de le voir comme un cadeau et voilà,
oui.
Une nouvelle variable à traiter quoi, dans sa vie.
Exactement. Mais je pense que les enfants ne le voient pas comme une trahison. Il se peut qu'il y ait un temps. Et ça, c'est plus ta partie, hein,
oui.
où ils vont ressentir quelques turbulences et le manifester peut-être par une énurésie, qui est le pipi au lit, je ressuce mon pouce, je remets des couches, une petite régression ou alors un petit trouble du comportement. Hein, ils s'affirment comme ils peuvent, les enfants, en fonction de leur âge aussi. Et puis d'autres qui ne vont pas forcément manifester une difficulté particulière. Moi, ce que j'aime transmettre autour de ça, en fait, je te rejoins totalement. Ce que j'aime aussi transmettre, c'est que on a le droit aujourd'hui de ne pas faire d'enfant, on a le droit d'en faire un, on a le droit d'en faire cinq si on veut. On est équipé avec des utérus qui peuvent porter la vie plusieurs fois. C'est-à-dire qu'il ne va pas tomber comme une feuille morte une fois qu'on a eu un enfant. Donc, on est conçu pour avoir des frères et sœurs, c'est dans l'ordre des choses biologiquement. Donc, il n'y a pas de raison que ce soit traumatisant d'avoir un frère ou une sœur, que ce soit une difficulté outre mesure. Donc oui, ça peut être un questionnement, un changement en fait dans la vie de l'enfant, mais qui n'est pas traumatique, pas comme un gros événement qui n'est pas dans l'ordre des choses pour un enfant quoi. Hein. Il peut y avoir plein de choses qui peuvent se passer. Avoir un frère ou une sœur, oui, ça peut être questionnant, mais comme tu dis, c'est une restructuration de la famille. Et l'aîné, oui, bien sûr, qu'il a une place. En fait, la place d'aîné, c'est celui qui nous fait découvrir, en fait, la parentalité. Donc, l'aîné, je ne sais pas comment... Si toi, tu es l'aîné dans ta fratrie, Marie ?
Non, je suis la dernière. Oui.
C'est vrai, tu m'en avais parlé. Ouais. Moi qui suis l'aîné, bon, bah, après, ça dépend des familles, mais souvent, on va retrouver des personnes avec un profil un peu plus responsable, entre guillemets. C'est pas... Voilà, le rôle de l'aîné, alors... Il y a aussi ce qu'on projette hein, sur l'aîné, mais on peut avoir des exigences un peu plus fortes avec l'aîné, et puis on peut avoir été un peu plus dur avec l'aîné, ou alors un peu plus à peu près, parce qu'on découvre la parentalité avec l'aîné, là où pour le deuxième, troisième, on évolue un peu plus en conscience, peut-être aussi autour de certains concepts de parentalité. Donc c'est un peu différent, je pense, la façon de grandir quand on est un aîné, puis la relation avec les parents, où on a connu aussi une place exclusive. Ben, le deuxième, lui, il connaîtra pas ça. Donc ça peut faire flipper aussi pas mal de monde de se dire, mais mon deuxième, il saura pas ce que c'est que de m'avoir pour lui tout seul. Ben, en fait, chaque enfant trouve... disons que ça va pas lui manquer plus que ça, parce qu'il connaîtra pas.
Il connaît pas.
Voilà. Donc, il aura d'autres bénéfices d'avoir le bruit pendant la grossesse, par exemple, de l'aîné. Bah, en fait, peut-être que la question du sommeil, je ne sais pas si tu as remarqué qu'il peut y avoir un lien aussi, la tolérance au bruit qui peut être différente pour un...
Il y a une tolérance, on va dire, oui, dans la journée ou peut-être sur notre premier enfant, on va vraiment se dire bruit, la petite sieste, machin. Bon, pour un deuxième, de toute façon, tu ne peux pas trop empêcher le premier qui fait du tractopelle à côté. Donc, c'est sûr que oui, il y a une tolérance. Enfin, on va moins se prendre la tête sur certaines choses, c'est sûr. Mais c'est pas plus mal. C'est pas plus mal, du coup.
Ouais.
On lâche prise un peu plus.
Ouais, du côté des parents. Puis l'enfant, peut-être aussi, est plus habitué au bruit autour,
ouais.
Quoi. Y a autre chose qui me vient aussi, c'est, tu vois, tu disais l'amour, ça se divise pas, ça se multiplie. Alors ça, il y a quelque chose de véridique. Et en même temps, bah oui, chaque expérience est différente. Il se peut qu'on tombe tout de suite amoureuse de notre premier, puis le deuxième, ce soit pas exactement ça. C'est lié à plein de facteurs inconscients. Ça peut être lié au déroulé de la grossesse, de l'accouchement, du lien dans le couple, etc. Enfin bref, il y a plein de variables et ça va pas se réitérer forcément systématiquement. Et il y a aussi la question du temps qu'on peut passer avec chaque enfant.
Oui. Oui.
Parce que, y a, disons que pour le premier, on était deux pour cet enfant. Là, y a déjà quelqu'un qui est là. Donc, ça peut être hyper dur et même voire culpabilisant de se dire, j'aurais plus autant de temps pour mon aîné qui aujourd'hui a l'exclusivité Et en même temps, mon bébé, est-ce que j'aurai du temps à consacrer à mon maternage?
C'est ce que j'entends le plus, je crois, dans les par rapport au deuxième enfant, que ce soit au niveau du sommeil ou même au niveau, souvent l'aîné, voilà, on est quand même en majorité autour de 3 ans, donc en plus dans la bonne phase, sympa de gestion des émotions. Et c'est vrai que forcément, un petit bébé, ça demande beaucoup plus de temps, beaucoup plus de maternage, comme tu dis au début. Et c'est hyper délicat pour le grand de gérer ça et d'aller, du coup, nous, gérer ses propres émotions qui sont déjà de part liées à son développement, mais qui sont accentuées par l'arrivée de ce deuxième bébé. Et ça, finalement, je trouve que les parents ne se rendent pas forcément toujours compte de l'impact. Alors, ce n'est pas du tout pour culpabiliser qui que ce soit, hein, je dis ça, mais en fait, on va me parler du fait qu'il ait 2 ans, du fait que, j'en sais rien, il y a eu tel ou tel changement, qu'il a changé de nounou, que ci, que ça. Et puis en fait, j'ai oublié de te dire, au fait, je vais accoucher là dans 1 mois où je viens d'avoir un enfant. Tiens. Et puis en fait, quand tu déroules le fil, finalement, tu te rends compte que c'est quand même l'arrivée de ce deuxième enfant qui a été source de bouleversement parce qu'en fait, nous, on le voit avec nos yeux d'adultes, on ne voit pas forcément avec nos yeux d'enfant. Il y a des choses qui peuvent nous paraître tellement évidentes et tellement... Parce qu'on l'a dit une fois, et donc du coup, c'est bon, maintenant, normalement, il a compris, mais en fait, pas du tout. Et c'est vrai que ce travail sur les émotions, de verbalisation, d'accompagnement, alors c'est pas simple, hein, parce que ça demande de l'investissement en tant que parent, mais sur un temps, ça peut être sur un temps assez court, finalement, s'il est vraiment bien pris en charge, sur un temps assez court, pour pouvoir vraiment s'assurer sur la suite. Et ça va impacter sur le comportement au quotidien du jeune enfant, mais ça va aussi impacter sur son sommeil. On va en parler derrière, mais c'est. Voilà, pour moi, c'est vraiment essentiel d'aller se dire que c'est vraiment pour lui un vrai chamboulement. Et parfois, on ne le voit pas tout de suite. Parfois, ça peut arriver 1 mois, 2 mois après, 3 mois après, et boum, on se le prend dans la figure, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, si, si. Et le temps que ça décante dans leur petit cerveau.
Ouais, tout à fait, c'est aussi un enjeu pour l'enfant et l'enfant ne va pas forcément comprendre pendant la grossesse qu'il va y avoir un bébé. Alors parfois, même des tout petits comprennent qu'il y a un bébé dans le ventre de maman et qu'il va venir, mais selon le développement de l'enfant et de ses acquisitions, il peut ne pas encore bien comprendre ce qui va se passer. Donc c'est quand l'enfant, in fine, est là que le vrai changement arrive, mais même alors à cet âge-là, hein, tu vois, tu parles du 2-3 ans, ça vraiment ça dépend de l'âge. Bien sûr, si l'enfant a 8
Oui,
ans,
bien
il
sûr.
perçoit pas les mêmes choses. Mais disons que c'est très, ils sont très dans l'instant présent, quoi. Hein. La projection à plus tard, c'est pas encore d'actualité. Donc de voir un ventre rond et de se dire il y a un bébé dedans, ça peut être un peu perturbant. Et en même temps, bien sûr qu'on va en parler, on va pas en faire un sujet tabou, donc ça fait partie encore une fois de l'ordre des choses. Mais du coup, ça peut être trop bizarre d'entendre parler d'un bébé alors que le ventre est rond, mais c'est moi le bébé. Enfin, c'est voilà, ça peut être là, il peut se passer des choses. Et quand l'enfant numéro 2 arrive, il se peut que l'émotion arrive à ce moment-là, ou alors quand en fait, on ne le renvoie pas, il n'y a pas de ticket de caisse, il n'y a pas de
C'est ça.
demi-tour, quoi. Il va vraiment rester.
C'est ça. Ouais. Et quand on. Bah oui, surtout, enfin, voilà, sur les 3 premiers mois, quand on voit le. Si tant est que la maman allaite, si tant est qu'il y ait du cododo, c'est tout ça, en fait. Et en fait, moi, pourquoi j'y ai pas droit, en fait. Moi, on me dit de dormir dans mon lit, de m'endormir tout seul, même, parfois. Et en fait, à côté, il y a le petit bout qui accapare les parents. Donc, c'est pour ça que ça peut arriver un peu à retardement aussi. Il ne faut pas minimiser ça, en fait.
Non, pas minimiser, pas dramatiser et en faire un
Pas
traumatisme,
dramatiser non plus.
mais simplement bien le préparer tant que faire se peut en fonction de son développement, poser des mots à son niveau de compréhension, peut-être l'intégrer aussi à sa juste place, pas forcément lui donner un rôle plus important que celui du parent ou au même niveau que le parent, mais le faire participer et en même temps garder des temps de qualité. Oh là, ça fait beaucoup de choses, hein. Garder des
C'est
temps de
beaucoup de choses,
qualité.
ouais, on va en parler après, mais c'est vrai que ça fait une sacrée liste et que du coup, on peut se dire, oh là là, est-ce que je vais réussir à faire tout ça? Bon, de toute façon, on n'est pas parfait, on ne fera pas tout parfaitement, mais déjà, si on injecte 2, 3 petites choses, ça va aider.
Ouais, tu vas en parler. Moi, je termine juste sur les idées qui m'étaient venues. Moi, ce que j'aime beaucoup partager avec les couples, notamment que je vois pour la deuxième parentalité, c'est de vraiment faire le point, voilà, sur cette première expérience, sur qu'est-ce qui a manqué, peut-être aussi, d'envisager l'après, de co-construire l'après, que ce soit autour de ce premier enfant, autour de soi aussi, de vraiment bien se préparer pour éviter justement d'avoir trop de questions d'un coup après qui viennent, et peut-être d'anticiper un peu plus et de s'entourer peut-être encore un peu plus que pour le premier, parce qu'on peut voir, comme des binômes. Quand le deuxième enfant arrive, où le papa s'occupe, alors je dis papa, le coparent s'occupe plutôt de l'aîné, et la maman qui allait, d'autant plus si elle allait, du deuxième. Et il peut y avoir comme deux groupes comme ça qui se font. Donc c'est pas forcément une mauvaise chose en soi, simplement de réfléchir à cet équilibre sur le long terme, de changer les binômes de temps en temps. Et de passer du temps, ou même à 4, à 3, à 2, de bien communiquer dans le couple aussi, parce que ça peut être très fatigant, même pour le coparent, d'avoir à gérer l'aîné et puis tout le reste. Donc ça peut être fatigant pour les deux parents. Et pourquoi pas vraiment de prendre encore plus au sérieux la préparation de l'après, en faisant intervenir peut-être plus de tiers, en se faisant un peu plus aider, parce que c'est d'autant plus exigeant, quoi, de répondre à ces questionnements du premier, aux besoins du deuxième qui reste un nouveau-né comme le premier, qui a peut-être aussi ses propres enjeux, le couple, soi, enfin, il y a tellement d'enjeux en même temps, que ne pas hésiter à faire appel à des proches, à une aide ménagère, à... D'autant plus préparer en amont des petits plats, enfin voilà.
Préparation du postpartum x2, quoi.
Ouais, voilà, deuxième enfant, on prépare deux fois plus le postpartum. Voilà. Pas forcément tout anticiper, mais au moins les choses un peu chiantes, ou alors de ne pas se sentir seule ou complètement dépassée, essayer de tirer des ficelles avant, tant que faire se peut, encore une fois.
Très bon conseil.
Je te laisse la parole sur la presse, toi, la chef du postpartum.
Non, comme toi, n'hésite pas à intervenir, surtout dans ce que je propose. Moi, je voulais proposer aujourd'hui de décomposer un petit peu en trois phases. Tu en as un petit peu parlé déjà, mais c'est l'annonce de la grossesse, pendant la grossesse et surtout l'après, pour essayer de préparer au mieux nos aînés. Alors, tout dépend de leur âge. Bien sûr, comme tu disais, on ne va pas parler de la même façon à un aîné de 15 mois ou à un aîné de 3 ans. Moi, je suis plus partie dans l'idée d'un âge un peu moyen, oui, autour de 2 ans. Donc après, à adapter bien évidemment selon l'âge de vos enfants. Déjà, au niveau de l'annonce, moi, ce que je conseille souvent, c'est de ne pas annoncer trop tard. Alors, pas trop tôt non plus, parce que c'est vrai que c'est long pour eux, 9 mois. Ils n'ont pas forcément la notion du temps à cet âge-là. Bon, déjà, quand on leur parle du week-end prochain ou de ce qui va se passer dans 2 jours, c'est déjà énorme. Donc, 9 mois, on change d'année parfois. Bon, ça peut paraître le bout du monde. Mais pas trop tard non plus, parce que, en fait, souvent, nos enfants, et ça, j'ai beaucoup de mamans, toi, tu dois l'entendre aussi, se rendent finalement compte de notre grossesse, parfois même avant qu'on le sache nous-mêmes. On le découvre parfois même après. Ils le savent. Et tu sais, c'est le fameux « ils savent qu'ils savent, ils savent qu'on sait », enfin, c'est un peu ça. Et souvent, du coup, ils vont commencer à manifester des émotions alors qu'on ne leur a rien dit, justement parce qu'on ne leur a rien dit. Donc, à un moment donné, au moment qui vous semble le plus opportun, c'est de clarifier la situation. On peut attendre la première écho, on peut attendre, là, c'est vraiment comme chacun veut. Mais en tout cas, pas trop tard, quoi. Pas quand votre ventre commence déjà à se voir beaucoup. Enfin, c'est là où peut-être l'aîné peut se sentir un petit peu mis de côté, ou alors, je ne dirais pas jusque dire trahi, mais... Pas dans le secret familial, on va dire, quoi. Alors qu'après, on va l'intégrer. Donc, voilà. Au niveau de l'annonce, le plus simplement du monde, bien évidemment, pas de choses trop compliquées, parce que de toute façon, à 2-3 ans, on reste dans le concret, comme tu disais tout à l'heure, et dans l'instant présent. Et surtout, en fait, on n'en fait pas trop, mais surtout, on écoute ce qu'il a à nous dire. Là, on reçoit. Donc, on peut être hyper surpris des réactions, que ce soit immédiatement ou même parfois le lendemain, le surlendemain. Mais on reçoit la joie extrême, hein, tant mieux. on reçoit la colère, on reçoit peut-être des coups qui peuvent avoir envie de partir, on reçoit de la tristesse, on reçoit tout ça. Et surtout, on ne dit pas « mais non, mais tu verras, ce sera génial, mais t'inquiète pas, mais enfin, voilà, ok, en fait, t'as le droit d'être triste, t'as le droit d'être en colère, t'as le droit de nous en vouloir à mort. Nous, on t'annonce ça, c'est aussi papa et maman, en fait. C'est ça aussi, c'est papa et maman qui souhaitent agrandir la famille. C'est pas forcément toi qui va... Enfin, oui, toi, tu vas avoir un petit frère ou une petite sœur, mais c'est pas... Dire que c'est quand même un désir de couple avant tout, pas pour remplacer le premier, mais pour agrandir la famille. Et c'est vrai que je trouve que directement de dire « tu vas avoir un petit frère ou une petite sœur », boum, enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais ça... Directement, ça met le projecteur sur l'enfant, alors que voilà, il a le droit, lui, d'en penser ce qu'il veut, de ne pas être d'accord et de vouloir rester tout seul toute sa vie. Donc, surtout, on reçoit toutes ces émotions et on lui dit qu'il a bien sûr le droit d'être ce qu'il a envie d'être à ce moment-là et sur les jours prochains. Et surtout que quoi qu'il arrive, nous, en tout cas, on sera là pour l'accueillir son émotion, pour lui faire des câlins, pour l'aider à évacuer et voilà, on l'aime quoi qu'il arrive, même s'il est hyper en colère, il n'y a pas de souci. Ça, c'est vraiment une phase qui est très importante pour moi sur les quelques premiers jours qui suivent l'annonce. On peut avoir des enfants hyper heureux et puis en fait, le lendemain, le surlendemain, petit vélo dans la tête, boum, en fait, l'émotion change complètement. Donc, se préparer à ça et pouvoir accueillir cette émotion. Je ne sais pas si tu avais d'autres choses à ajouter par rapport à l'annonce.
Alors moi, je trouve ça vraiment instructif déjà, parce que ce n'est pas ma partie à moi. Encore une fois, l'œil de l'enfant, je suis plus sur l'œil du parent. Mais ce que j'aime beaucoup dans ta réflexion, c'est cette question de responsabiliser le projet de couple. Tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, de ne pas mettre sur les épaules de l'enfant toute la responsabilité de l'arrivée de ce deuxième enfant. C'est avant tout un projet de couple, parce que lui-même était un projet de couple, conscient, inconscient, etc., peu importe, mais il n'est pas son autoprojet. Il est un projet de famille, et cette famille, en fait, c'est une entité qui n'est pas dont lui, il n'est pas responsable, en fait. Bien sûr, il est co-responsable de comment évolue la famille, mais il est responsable sous la responsabilité de ses parents, et ce sont ses parents qui prennent la responsabilité de ce deuxième enfant, quoi. Et oui. Je trouve ça hyper, hyper important, et merci, parce que j'avais pas forcément cette réflexion-là.
Ok. Après, sur le pendant la grossesse, là, c'est vrai que ce qu'on va voir le plus évoluer, en plus, voilà, ça dure longtemps. Donc, c'est vraiment l'aspect émotionnel. Donc là aussi, on peut avoir pendant peut-être 2 mois, RAS, pas de changement particulier. Puis bon, d'un coup, boum, ça, il y a des choses qui vont changer au niveau de son comportement, au niveau de son sommeil. Puis en fait, ça va revenir. Et donc ça, c'est important d'être hyper attentif. Et tout comme au moment de l'annonce, d'aller valider tout ça et d'aller accueillir tout ça. Parce que pendant la grossesse, il y a différentes phases aussi. Au début, maman peut se sentir hyper fatiguée, hyper malade. Donc, on va aussi moins s'occuper du premier. Après, il y a un petit regain d'énergie. Donc, peut-être qu'on va être un petit peu plus attentive à lui. Puis, sur la fin de grossesse, on est en mode baleine. Donc, on est peut-être moins aussi active avec notre aîné. Et papa qui va souvent prendre un peu plus le relais. Donc, c'est toutes ces phases-là où aussi notre enfant va nous voir changer. Et donc, c'est important d'aller comprendre aussi ce qu'il ressent et s'adapter à ses émotions à chaque moment. Donc, moi, ce que je propose toujours aux parents, c'est surtout déjà de l'aider à mettre des mots. Alors, à 2 ans, on n'a pas forcément en tête toutes les émotions qui peuvent exister. Donc, de faire le point sur ses émotions le matin. Comment tu te sens ce matin? Est-ce que y a du soleil dans ton cœur? Est-ce qu'il pleut dans ton cœur? Est-ce que tu t'es en colère? Est-ce que voilà, faire le point le matin, j'aime bien, parce que ça permet de voir aussi comment va partir la journée. Et si déjà notre enfant nous montre la colère ou la tristesse ou qu'il est un peu chonchon, on va peut-être prendre 5 minutes déjà le matin avant de descendre au petit-déj pour se faire un câlin, pour rester 5 minutes peut-être dans le lit pour aller se reconnecter avant la journée. On peut le faire aussi le soir, mais c'est vrai que d'aller peut-être parler des émotions le soir juste avant de se coucher, c'est pas forcément judicieux, parce que c'est là où, on parlait des petits vélos tout à l'heure, c'est là où ça peut remettre un petit peu de, bah, dévotion aussi, oui, par rapport à l'endormissement. Mais moi, j'aime bien faire le point le matin. Bah, comme toi, quand tu te lèves, tu te dis, bon, bah, comment je me sens ce matin? Nickel, je vais passer une bonne journée. Ou alors, je serais bien restée au lit. Bon, bah, déjà, ça nous donne la tendance et ça nous permet d'apaiser notre enfant pour la journée. Et puis, bien sûr, après, on l'aide à mettre des mots, on verbalise, on peut lui redire, bah, voilà, comment tu te sens par rapport... L'idée, c'est pas de lui bourrer le crâne tous les jours avec ça, hein. Mais si on voit qu'à un moment donné, ça flanche un peu, bah, tiens, comment tu te sens par rapport à bébé qui va arriver? Est-ce que tu es un peu plus content qu'avant, moins content? Est-ce que tu te poses des questions? De quoi tu aurais peut-être peur? Alors, bon, après, à voir en fonction de leur âge ce qu'ils sont capables d'exprimer, mais on peut être hyper surpris de petites choses, en fait, de petits détails qui nous paraissent tout bêtes, mais eux, ils vont te sortir « j'ai peur qu'ils prennent mon lapin rose ». Bah, ok, non, alors en fait, moi, je ne m'attendais pas du tout à ça, mais c'est pas grave. Mais du coup, ça permet aussi d'identifier leur propre peur d'enfant et d'aller apporter une réponse tout de suite immédiate à ça, pour aller vraiment tout de suite apaiser et ne pas laisser justement des petites tensions là, se développer dans leur petit cerveau d'enfant. On peut se servir, bien sûr, de livres. Hein. Il y a plein de livres qui existent sur le sujet. L'idée, c'est pas d'en faire un tabou, comme tu disais tout à l'heure, mais c'est pas non plus d'en faire un sujet tous les jours, quoi. Parce que ça reste la vie, et ça reste notre premier, il a sa vie, et voilà. Comme je disais, c'est un projet de couple, donc avant tout. Par contre, si on sent quand même qu'il y a des émotions qui sont un peu dures, on n'hésite pas aussi à l'aider à libérer. Donc, on a parlé de la verbalisation, mais ça peut être via des dessins, pareil, en fonction de son âge, via du dessin, via la pâte à modeler, via des petits jeux. Moi, je sais qu'il y a quelque chose que je conseille souvent, j'aime bien faire, c'est de décentrer les situations, c'est-à-dire de je crois que je m'en avais parlé une fois, mais de jouer en fait les scènes avec des petits Playmobil ou des peluches ou des poupées ou ce qu'on veut, et de se dire, bah tiens, on imagine, là, c'est toi, Lucas, ça, c'est bébé qui va arriver bientôt, ça c'est papa, ça c'est maman, bon ben voilà, on joue avec les petits personnages, en fait, on se fait des petites situations, et on observe Playmobil Lucas est en train de défoncer petit bébé, par exemple, bon, on peut se dire, voilà, il y a peut-être de la colère, il y a peut-être quelque chose, mais et parfois on peut être surpris, en fait, peut-être que Lucas va prendre petit bébé dans ses bras, va lui dire je t'aime, et c'est là aussi, en décentrant les situations, qu'on peut, en fait, l'enfant se projette, en fait, au niveau de ses émotions. Il n'est pas forcément capable de parler de lui, mais il est capable de parler d'une situation qu'il est en train de voir sous ses yeux, en fait. Ça peut aider aussi. Voilà, quand tu parlais tout à l'heure de l'impliquer, oui, je suis complètement d'accord aussi, sans jamais obliger, bien sûr, puisque bah, il a le droit aussi de ne pas du tout avoir envie à certains moments, et en fait, à d'autres moments, oui. Donc, ça peut être l'impliquer sur la déco de la chambre, l'impliquer sur le choix du doudou, l'impliquer sur le choix de la petite tenue ou d'un petit pyjama. Ça peut être, on va trier les jouets de Lucas, par exemple, on va trier les jouets de Lucas pour essayer de mettre de côté ce dont t'as plus envie, les jeux de bébé, pour aller les prêter à petit frère ou petite sœur. Et du coup, bah, toi, trop bien, ça te fait de la place dans ton espace jeu. Bah, tiens, on va peut-être aller acheter un jeu de grand ensemble. Enfin, tu vois, d'essayer un petit peu de faire le tri. Et puis, eux, ils sont souvent fiers, en tout cas, de donner certains jouets aussi, de se dire, bah, je suis plus un bébé. Bon, il y en a, c'est difficile, mais c'est pas grave, du coup, surtout on force pas. S'il y a des jouets où ils jouent plus du tout avec, mais qu'ils ont quand même envie de garder, c'est important aussi, voilà, pour qu'ils sentent quand même qu'il y a quand même une trace de leur bite bébé qui est toujours là et préservée. Donc voilà pour l'implication, en tout cas pendant la grossesse. Et enfin, ce que je conseille aussi, c'est d'expliquer à quoi s'attendre. Donc ça, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. C'est vrai que les enfants s'attendent tout de suite peut-être à jouer avec le petit frère, la petite sœur, à ce que, voilà. En fait, l'idée, c'est aussi d'expliquer qu'un bébé, bah, au début, c'est très dépendant de sa maman, que peut-être, bah oui, si maman allait, même s'il y a le biberon, bah, c'est-à-dire qu'il va réclamer quand même souvent, qu'on risque de l'avoir souvent dans les bras, qu'un bébé, au début, ça ne dort pas forcément tout seul, donc bébé dort avec nous aussi. Et qu'un bébé, ça parle pas tout de suite, que la parole, ça vient plus tard, on apprend comme lui. Et là où c'est intéressant, c'est d'aller peut-être se replonger un peu dans les photos et les albums, mais on fait plus d'albums, mais les photos de l'aîné bébé, et de lui montrer, en fait, fait, que lui aussi il a été au sein, ou que lui aussi il a été dans les bras, que lui aussi il a été entre cododo, que lui aussi en fait il a appris à un moment donné à marcher, puis à parler, puis à jouer tout seul, etc. Et qu'en fait ça se fait vraiment progressivement, et que comme lui, son petit frère ou sa petite sœur va suivre le même chemin. Et que là où c'est vraiment trop trop chouette, c'est que lui, en tant que grand, il va en plus pouvoir vous aider en tant que parent à lui apprendre tout ça et à lui montrer tout ça. Mais et souvent de se voir bébé, en fait, les enfants réalisent que bah oui, eux aussi, ils ont été comme ça et qu'il y a des phases, en fait. C'est pas jour-nuit, c'est progressif.
Bah totalement. C'est ça, ça fait partie des choses que je peux évoquer, c'est d'expliquer que ben un tout nouveau-né a des besoins plus importants qu'un enfant de 1 an, 2 ans, et que toi aussi tu as été à cette place-là, un tout petit bébé, et moi aussi quand j'étais avec mamie, j'étais, enfin voilà, tous les humains passent par là. Et là, bah, ce tout nouveau-né, au début, il sera comme ça, et puis après, il grandira, tu pourras jouer avec plus tard, mais au début, bah, au début, c'est pas vraiment cet échange-là, et il sollicite énormément. Voilà, il a des besoins que toi aussi tu as eus, et je trouve intéressant la question des photos. Merci.
Non, c'est vrai que eux, ils ont l'impression d'avoir toujours existé comme ça. Ils n'ont pas la capacité de se dire oui, j'ai été bébé un jour, alors que nous, on le sait bien. Mais ouais, c'est vrai que c'est. En tout cas, ça leur parle bien. Voilà, ça, c'est plutôt les tips que je donne sur pendant la grossesse. Après, si je fais juste une petite parenthèse au moment quand même de l'accouchement de la maman, parce que c'est quand même aussi un moment un peu chargé en émotions. Là, l'idée, c'est peut-être pas non plus d'aller raconter trop tôt ce qui va se passer. Alors, on peut parfois dans les livres avoir des petites choses, donc ça, bon, on peut en parler, mais c'est pas non plus d'aller mettre la pression trop tôt sur maman va partir, je te préviens, enfin voilà. Parce que, à vous, parfois on veut trop bien faire et du coup on est dans la prévention, mais encore une fois, nos enfants sont dans l'instant présent. Et voilà, donc c'est bien de leur en parler un petit peu avant, mais sans trop anticiper non plus. Et tout simplement, bah, en fait, d'expliquer là encore ce qui va se passer, d'expliquer l'absence de maman, oui, le jour J, qui va s'occuper de lui, comment ça va se passer, et surtout que ça ne dure pas, et que bah, pour lui aussi, maman a dû s'absenter de la maison pour pouvoir l'accueillir avant de revenir à la maison. Donc voilà, pour lui, ça s'est passé de la même façon. Et surtout que ça reste très concret, en fait, parce que on parle de maternité à un enfant, de sage-femme, de trucs, enfin, lui, il n'en a rien à carrer, il comprend pas. Donc, c'est plus de se dire, bah voilà, maman va aller dans un endroit pour accueillir bébé, parce qu'à la maison, si, bon, c'est possible si on s'y prépare, mais en tout cas, généralement, la plupart des mamans accouchent quand même à la maternité. Et surtout, de lui expliquer très concrètement ce qui se passera, des petits détails, en fait. Elle sera dans un lit. À côté, il y aura un autre lit avec bébé dedans. Dans sa chambre, ça peut être des trucs tout bêtes, hein. Il y aura la télé, il y aura une table de nuit. Et en fait, tout ça l'aide à visualiser vraiment où sera maman, quoi. C'est pas juste la maternité, ok, c'est quoi? Non, c'est très très concret. Restez très concret. On peut même lui montrer des petites photos. Tu tapes sur Google maman avec son bébé, maternité, t'en trouves plein. Et en fait, voilà, de lui montrer, bah, tu vois, ça, ce sera maman, ça, ce sera petit frère, petite sœur. Et surtout de lui expliquer aussi bah, tout ce qu'on va pouvoir faire. Donc, on va pouvoir s'appeler, on va pouvoir faire des visios, on va pouvoir se voir parce que tu vas pouvoir venir. On va pouvoir, je sais pas, bon, tu vas pouvoir prendre le petit bébé dans les bras, on va pouvoir, bon. Et puis ça va durer un temps limité, tant de dodo à peu près, s'il arrive à comprendre les dodos, tant de dodo à peu près, grosso modo. Et puis après, maman revient à la maison sans problème. Donc, restez vraiment dans le concret. Et une dernière petite astuce que j'aime bien aussi donner pour les mamans quand elles s'absentent, c'est la petite boîte à surprise pour les enfants. En fait, on peut se façonner une petite boîte, nous, et qu'on laisse, bah, par exemple, à papa ou à mamie, enfin voilà. Et pendant le temps de notre absence, en fait, on va offrir cette petite boîte à notre enfant. Et dans cette petite boîte, bah, on y trouve quoi? Pas que des cadeaux. Ça peut être un petit cadeau. Ça peut être ses petits bonbons préférés. Ça peut être des petites photos de nous, de la famille. Ça peut être des petits mots que du coup, papa, mamie, papy liront. Donc, j'en sais rien. Un petit mot pour te souhaiter une bonne nuit, mon chéri. Je pense à toi. On se revoit bientôt. Enfin, des petits mots doux, des petites choses qu'on a l'habitude de leur dire. Un petit livre. Enfin, voilà. C'est la petite boîte à surprises. Et puis, on peut se dire, ben, on prend une surprise par jour ou deux surprises par jour, en fonction de ce qu'on aura mis dedans, sur le temps en fait, de l'absence. Déjà, ça permet de voir que le nombre de surprises diminue et que maman se rapproche aussi. Et puis, bah, ça permet aussi un petit peu de remettre du baume au cœur pendant l'absence de maman.
Ah, génial. Merci pour ces clés. Ouais. Je pars à Paris pour une formation dimanche et je me dis que je vais faire ça pour mes filles. Il n'y a pas d'arrivée d'autres enfants, mais pour gérer l'absence. Ah bah ouais. Bonne idée.
Et tu peux cacher, mais tu peux le faire aussi avec ton mec. Hein. Il peut cacher des petits mots doux dans la maison.
Ah ouais, ouais, c'est vrai. Moi, je pense à mes enfants. Hein.
mais bon, ça peut être aussi, voilà. L'idée, c'est d'avoir des petites pensées douces et pas forcément 12 000 cadeaux, quoi. C'est plus de maintenir le lien, en fait.
Oui, ouais.
Et puis sur l'après. Donc bah là, je vais reparler des émotions, mais oui, c'est sûr que les émotions, en fait, c'est un peu le fil conducteur hein, du début à la fin, je pense que vous l'aurez tous compris. Mais là aussi, en fait, sur l'après, on peut voir des changements de comportement, en fait. On peut avoir une semaine, deux semaines, un mois où tout se passe très bien. On se dit, bon, finalement, c'est nickel, parfait, le deuxième enfant, et puis boum, ça part en vrille. Donc, être vraiment hyper attentif à tous les petits signes qui peuvent vous montrer que, voilà, il y a un malaise, il y a quelque chose. En fait, de toute façon, dès lors que vous voyez le comportement de votre enfant changer, il faut se poser la question. Après, ça peut être d'autres raisons. Donc ça aussi, c'est ce qu'on va creuser en accompagnement. Voilà. Mais bon, quand il y a l'arrivée d'un deuxième enfant, c'est vrai que souvent, ça peut quand même impacter le comportement. Donc, pas forcément beaucoup, hein, ça dépend vraiment. Je ne dis pas que c'est la cata à chaque fois, surtout pas. Mais vraiment, soyons attentifs aux moindres petits changements pour aller justement attiser tout de suite la braise là, qui commence à chauffer, plutôt que de fermer les yeux et de laisser le feu se attiser, justement. L'impliquer là aussi, on peut, bien sûr, bah, on l'a impliqué pendant la grossesse. S'il en a envie, on peut l'impliquer au quotidien, le bain, le biberon, le pyjama, enfin tout ce qu'on veut. À chaque fois, évidemment, même si c'est un tout petit truc, même si c'est de lui redonner sa tétine, mais en fait, c'est pour nous, c'est vraiment waouh, merci, t'es vraiment un super grand frère, une super grande sœur, là, tu lui as redonné sa tétine, regarde comme elle est contente. Bon, alors qu'en soi, ça n'a rien d'extraordinaire, mais en fait, d'aller vraiment venir valoriser chaque action en fait, qu'il va avoir avec son petit frère ou sa petite sœur, surtout si ça vient de lui, c'est hyper important d'aller le valoriser là-dedans. Et c'est bien, je trouve, de dire c'est toi le grand, c'est toi, voilà, mais pas trop non plus. Enfin, on peut aussi dire, bah, mon petit Lucas, tu sais que tu seras toi-même toujours le bébé de maman, hein, même à 15 ans, tu seras toujours le bébé de maman. Donc, on peut dire à certains moments, bah oui, t'as vu, c'est toi le grand frère, regarde, être garde, t'es important pour lui, pour elle. Mais ne pas trop non plus mettre cette responsabilité au quotidien sur ses épaules, parce que lui aussi, et puis, à un moment, je pense que même nous, adultes, dans notre vie, on a tous envie, à un moment donné, de se ressentir, de se retrouver comme le petit bébé de ses parents quand on a des petits coups de mou. Donc, c'est important de ne pas trop mettre cette responsabilité-là quand même sur ses épaules. Ça fait lourd aussi. Je dis aussi souvent aux parents, attention, parfois, on ne fait pas gaffe, hein, voilà, mais aux mots du style « Ah bah non, attends, à cause de ton petit frère ou de ta petite sœur, là, je ne peux pas jouer avec toi. » Ah bah non, là, tu vois bien que je m'occupe de lui, donc parce que je suis avec lui, je peux pas faire ça avec toi. C'est pas facile parce que, oui, c'est la réalité. Mais du coup, peut-être d'entendre, en fait, souvent ce « à cause de lui, je ne peux pas avec toi », en fait, le raccourci va être vite vu de « ok, donc en fait, maintenant qu'il est là, papa, maman, en fait, ils sont plus dispo pour moi ». Bon, essayons de formuler la phrase différemment. Attends, je lui donne son biberon parce que là, il a besoin. Et juste après, je reviens vers toi pour jouer ou pour te mettre en pile. J'en sais rien. C'est des petits détails. Mais c'est vrai que dans les oreilles d'un enfant, de l'entendre souvent de cette manière-là, ça peut être un peu gênant. Tu parlais des régressions tout à l'heure. Oui, alors ça, on en voit beaucoup, notamment sur le sommeil. Et alors, ça peut être régression au niveau de la continence, ça peut être régression au niveau, il a envie de revoir sa tétine, ou de reboire un biberon, ou de goûter votre lait, ou j'en sais rien, enfin, ou de redormir avec vous, ou voilà. Donc là, Je pense qu'il ne faut pas se battre trop, bon, dans la limite de ce que vous voulez et du raisonnable, bien sûr. Mais en fait, il faut accepter aussi cette phase de régression parce qu'il va venir retester certaines limites. Alors, il y a des choses qu'on peut accepter temporairement. Il y a des choses où on dit, bah non, ça, je n'ai pas de sujet spécifique en tête, mais si pour vous, c'est rédhibitoire, bah c'est non. Mais on vient surtout dire qu'on comprend. C'est oui ou c'est non après, selon vous. Mais voilà, cette phase-là, elle est normale. Elle peut durer. Elle peut durer quelques jours, quelques semaines. Et puis, en fait, d'elle-même, elle va s'apaiser parce que notre enfant va retrouver son quotidien, va retrouver son rythme, va retrouver son école, son... Bon. Donc c'est une phase qu'il faut prendre en compte. Et enfin, tu en as aussi parlé tout à l'heure, le temps de qualité. Ça, c'est pareil, ça nous paraît... on minimise beaucoup, et ça, même en sommeil aussi, hein, je trouve qu'on minimise beaucoup, beaucoup, beaucoup ce temps de qualité. C'est pas facile, hein, parce que dans notre société, notre organisation, boulot, c'est hyper difficile de trouver du temps de qualité pour chacun, pour nous-mêmes déjà, et puis pour nos enfants, et puis pour le mec, et puis moi. Donc c'est hyper difficile. Mais en tout cas, sur les débuts après l'arrivée d'un bébé, c'est d'autant plus important, mais ne serait-ce que 10 minutes, en fait. Des fois, il ne suffit pas de beaucoup. Ne serait-ce que 10 minutes. Pendant 10 minutes, le temps que bébé dort ou le temps que bébé est dans les bras de papa ou j'en sais rien, on se dit, bon, allez, 10 minutes, bah, tiens, bah, ça tombe bien, j'ai un lave-vaisselle à vider. Bon, bah non, tant pis, en fait, ton lave-vaisselle, tu le feras demain. Tant pis, la vaisselle sera sale ce soir dans l'évier. Et par contre, ces 10 minutes-là, plonge-toi dans le regard avec ton aîné et puis... Fais un jeu, fais un câlin, lis une histoire, faites-vous une partie de chatouille, rigolez comme des baleines, faites un cache-cache dans la maison. Ce qu'on veut, en fait. Mais c'est vraiment précieux. Et ça, ça va aussi vraiment l'aider à se dire, OK, j'ai mon temps pour moi aussi. Donc ça, avec le sommeil, on fera le lien juste après, mais ça va vraiment le remplir, en tout cas pour la nuit. Mais, et même au quotidien, en fait, d'essayer d'avoir des petits temps avec bébé, bien sûr, mais avec le grand aussi. C'est vraiment important. Voilà, que ce soit le coparent ou nous.
Oui.
Et de ne pas hésiter à faire des choses aussi, comme tu disais tout à l'heure. Alors, il y a des binômes, oui, qui peuvent se créer, donc il faut faire attention à ce que ce ne soit pas toujours les mêmes. Mais si à un moment donné, on se sent laisser bébé 2 heures à papa pour aller faire marcher avec le grand ou pour aller vite fait au parc ou j'en sais rien, on n'est pas forcément obligé de tout faire à 4, quoi, tout le temps. C'est ça aussi. On a tendance à vouloir à faire tout en famille et tout, mais en fait, on n'est pas forcément obligé, quoi. Et nos enfants, justement, nous le rendent bien. Donc, merci souvent de consacrer un petit temps à une pour eux.
Oui, ouais, le temps de qualité, même si c'est peu, mais de les garder, même ne serait-ce qu'effectivement 10 minutes ou... voilà, puis je pense que ça continue toute la vie après, hein, que ce soit en postpartum ou même après, mais quand on a plusieurs enfants, on travaille, donc avoir... un petit temps de qualité avec les enfants, c'est plus une question de quantité. Moi, je fais souvent le parallèle avec nous, comment on se souvient de notre enfance. On ne se souvient pas de la quantité de temps que nos parents ont passé avec nous, mais plutôt de certains moments qualitatifs, ou pas d'ailleurs, si on n'a pas eu, ou pas assez. Mais c'est vraiment plus une question de qualité que de quantité. Là, je discutais, on parlait de nos vacances. Donc moi, je suis en couple et on est une famille recomposée. Donc, la fille de mon conjoint se souvient d'un moment, c'était le mini-golf avec papa. C'était tout bête, c'était une petite activité proposée par le camping, mais elle était seule avec son papa. Et ça, c'est son souvenir à elle, quoi. Et je trouvais ça chouette, en fait, le message. Ils ont pas, enfin, sur une semaine, ils ont passé une demi-heure à faire ça tous les deux. Bah, c'était son moment à elle, quoi. Donc... ça marche bien quand il y a l'arrivée d'un deuxième enfant, justement, de marquer aussi ces moments-là uniques entre toi et moi.
Oui. Complètement. Complètement. Et puis, alors, je ne sais pas si combien de temps il nous reste. J'ai pas l'heure sous les yeux.
Il est 14h06. Allons-y. Hein,
Ah ouais, donc on est bien... bon. Non, c'était juste 2-3 petits points sur le sommeil. Après, en particularité, oui. Alors, sachant que tout ce qu'on s'est dit là va aider, déjà, par rapport au sommeil. Encore une fois, on n'est pas obligé de tout mettre en place parce que c'est pas, voilà, on n'est pas parfait. On fait aussi avec ce qu'on a et notre quotidien. Mais en tout cas, ça pourra aider notamment tout ce qui va concerner les émotions. Sur le sommeil, on peut observer aussi, donc on en a parlé tout à l'heure, des régressions, donc des endormissements qui durent beaucoup plus longtemps, des réveils nocturnes, des peurs. Là, voilà, faut pas hésiter si on peut. à lâcher prise aussi à ce moment-là, parce que c'est beaucoup de choses pour notre aîné, forcément. Donc l'idée, c'est pas c'est pas d'aller contre ce qu'on veut soi, bien sûr, hein, on reste quand même dans la limite de ce que nous, on veut, mais à un moment donné, on peut lâcher prise, c'est-à-dire que si on a besoin de refaire du cododo, enfin, du coup, nous, peut-être pas si on est avec bébé, mais que papa a besoin de refaire du cododo avec le grand, ok, si à un moment donné, il nous rejoint un petit peu pendant la nuit, ok. Enfin, c'est du temporaire aussi, en fait. C'est un temps aussi où on va se reconnecter aussi ensemble. Par contre, après, il faut que ce soit clair que bah, ça ne dure pas si on n'a pas envie, qu'il y a un moment donné, il retournera dans sa chambre, que si, que ça. On met aussi une limite dans le temps. Là, c'est plutôt pour les enfants plus grands à comprendre ça, mais pour les plus petits, en tout cas, ne pas hésiter à aller, à refaire quelques petits pas en arrière, parce que c'est vraiment ça qui vont les aider à se resécuriser. De toute façon, pourquoi l'endormissement, enfin, pour, l'endormissement, pourquoi le sommeil, d'une manière générale, va être perturbé à l'arrivée d'un deuxième, c'est vraiment une histoire de sécurisation, en fait, enfin, de sécurité. Sécurité affective, de se dire, bah, j'ai un deuxième qui est arrivé, un deuxième bébé. Est-ce que, inconsciemment, tout ça, est-ce que papa et maman vous m'aimez autant? Est-ce que papa et maman vous répondront autant à mes besoins qu'avant? Est-ce que si j'appelle la nuit, quelqu'un va venir me répondre? Est-ce que c'est tout ça? Donc, en fait, bah, je viens essayer parce que, en fait, je me sens plus aussi serein et safe que jusqu'à présent. Donc, je viens essayer, je réclame des choses que je ne réclamais peut-être plus. Et puis, bah, voilà, papa et maman, par contre, doivent être là, effectivement, pour apporter la réponse et pour leur sécuriser. Plus vous allez vite en fait le resécuriser et le rassurer sur ces points-là, plus lui après il va aussi s'apaiser et ça va passer plus vite en fait cette phase
Ouais.
justement de régression.
On prend pas le risque que ce soit acquis comme définitif et d'être vu comme comme changeant et de laisser la négociation s'ouvrir. Enfin, on peut avoir cette crainte aussi de se dire bon bah si on dit oui une fois c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres quoi.
C'est une crainte que les parents ont beaucoup, de toute façon, en matière de sommeil, de se dire si je fais ça une fois, même sans parler du deuxième, hein, là, c'est si je fais ça une fois, c'est foutu. Mais en fait, non, vraiment non, parce que déjà, pour qu'une habitude vraiment se mette en place, il faut du temps. Ça dépend des enfants, mais il faut du temps. Et surtout, à un moment donné, c'est vous, peut-être c'est vous le. Enfin, c'est vous, quand je dis, c'est les parents, c'est nous le gardien, en fait. C'est nous qui avons les clés. Donc. À un moment donné, si on décide que, si on voit qu'effectivement, bah, notre enfant se plaît bien à faire du cododo avec nous, et qu'en fait, nous, ça y est, c'est bon, parce qu'on a quand même le deuxième derrière, c'est à nous, en fait, d'aller tout doucement se détacher, le remettre en confiance. Ça va pas être brutal, mais en tout cas, il va y avoir une phase transitoire, oui. Mais si en fait, on est hyper tranché, brutal, je trouve, en tout cas, de mon expérience, à dire. Eh ben non, tant pis, bah oui, il y a un petit frère, une petite sœur, mais tant pis, tu restes quand même tout seul, tu te débrouilles, tu machin, tu vois. En fait, tu vas finalement encore plus alimenter ce sentiment d'insécurité. Alors que si tu viens te reconnecter, te recréer du lien pendant peut-être quelques jours, parfois une ou deux semaines avec lui, ça va s'apaiser. Ça va s'apaiser. Après, il y a peut-être d'autres variables qu'on va travailler en rendez-vous sommeil, mais en tout cas, sur ça, ne pas se dire, oh mon Dieu, je vais tout faire foirer parce que je refais du pododo ou que voilà. Non, c'est. Qu'il en a besoin à ce moment-là.
Ah
Ouais.
ouais.
Après, il y a plein de petites choses à mettre en place pour aller le rassurer sur des rituels justement que pour lui le soir, avec des petites étapes qu'on fait avec lui qu'on ne faisait pas avant. Avec, bon, mais voilà, on rentre plus dans le détail au cas par cas. Mais en tout cas, ne fermons pas les yeux sur ça, sur ces manifestations-là ou régression sommeil. On a parlé un petit peu oui du cododo aussi. C'est vrai que les bébés ont, les enfants, les aînés, pardon, ont souvent du mal à comprendre pourquoi les bébés font du cododo. Bah, leur expliquer tout simplement que voilà, si on allaite, c'est plus pratique.
Oui.
Que les 6 premiers mois, peut-être, si on a décidé de le garder 6 mois, mettons, bah voilà, bébé il sait pas forcément se retourner tout seul, il sait pas forcément, voilà, donc il a besoin de nous. C'est pas juste par plaisir, quoi. C'est peut-être même lui dire que voilà, que
Oui,
bah,
que
ça
c'est
arrive avec
pas une
papa et maman,
préférence.
donc
Ouais.
pas une préférence, mais c'est une nécessité. En tout cas, si nous, on en est convaincus. C'est une nécessité pour bébé, pour sa santé, pour j'en sais rien, pour nous, pour notre fatigue. On a le droit aussi de parler de nous, hein, en tant que voilà, bah, avec maman, avoir un nouveau-né, c'est fatigant. Et ma maman, ça lui fait économiser de l'énergie, tu vois, que bébé dorme avec elle. Pour avoir plus d'énergie pour toi aussi le soir, le lendemain.
Oui.
C'est, voilà, c'est aussi lui faire comprendre très concrètement pourquoi on fait du cododo.
Ouais, le pourquoi.
Voilà, le pourquoi. Au niveau des réveils aussi, souvent, il y a cette question de « j'ai peur que le bébé réveille le grand ». Alors souvent, le grand n'entend rien, c'est ce que je remarque, c'est plus nous qui nous inquiétons. Et donc, quasiment tous les témoignages que j'ai eus, en fait, c'est « non, le grand, lui, est en profond sommeil ». S'il arrive qu'il entende, par contre, il peut se sentir investi de la mission d'aller réconforter bébé. Et ça, c'est important de lui dire aussi, attention, ce n'est pas ton rôle. C'est le rôle de papa et de maman. Si bébé pleure, on est là pour lui, on sait ce qu'il faut faire. Toi, ton rôle en tant qu'enfant, en fait, c'est de dormir. Tout va bien, le bébé est en sécurité, ne t'inquiète pas, toi aussi. Mais en fait, ton rôle, c'est de dormir et de surtout pas t'en occuper. Parce que ça peut être angoissant, en fait, d'entendre pleurer. Parce que pour eux, pour nos enfants plus grands, les pleurs sont associés à de la tristesse ou de la douleur, ou voilà, et de se dire bah non, il peut pleurer parce que il a du mal à se rendormir, parce qu'il a faim, parce qu'il a chaud, parce que voilà, très concrètement. Et donc ça, c'est nous qui nous en occupons, c'est pas toi, et c'est pas parce qu'il pleure qu'il est mal.
Ouais,
d'être très clair là-dessus.
Là, ça me fait rebondir quand même sur un sujet qui est quand même super important. Je pense qu'aujourd'hui, nos postpartum, on les vit tellement dans la solitude, on est vite démunis et à court de ressources, parce que, encore une fois, on n'est pas comme dans certaines cultures, comme en Tunisie par exemple, où les femmes sont entre femmes et on laisse jamais la mère seule à s'occuper de son enfant, sauf si elle en a envie, mais elle est soutenue sur tout le reste au quotidien. C'est très difficile de pas tomber dans la parentification de l'aîné. Tu peux le garder 2 secondes, je vais aux toilettes. Et en même temps, c'est vrai que c'est pas son rôle intrinsèquement, mais en même temps, on manque pas mal de ressources, d'où le questionnement de qui vous soutient, vous, et pas l'aîné. Ponctuellement, je pense que jeter un œil sur son frère et il est en sécurité, sur un tapis,
plaisir,
voilà. Mais pas lui donner la responsabilité non plus de la sauvegarde de son petit frère ou de sa petite sœur, en mode sa survie dépend de toi, pendant que je vais faire ma douche, quoi. Non, effectivement. Mais c'est vachement bien d'aborder le sujet, parce qu'en fait, on tombe vite là-dedans, mais parce que nous, on est seuls. On est vite démunis, quoi. Face, par exemple, à un bébé qui va beaucoup pleurer, une maman qui est seule en postpartum avec le deuxième qui est là, le premier qui est là, elle s'est pas lavée, il est 15h, jette un œil sur ta... même si elle pleure. Enfin, c'est pas évident, quoi, de tout conjuguer. Hein.
Et c'est pas évident, du coup, pour l'aîné aussi, d'accueillir... déjà, ils ont du mal à accueillir leurs propres émotions ou les émotions des parents, parce qu'ils savent pas les interpréter. Alors, d'avoir un bébé, regarde l'impact que ça peut avoir sur nous, adultes rationnels, ou on a envie de pleurer avec eux. Parfois, là, pour un jeune enfant, de jeter un œil sur un bébé qui pleure, ou même de l'entendre, ça peut être déstabilisant. Ça peut vraiment être déstabilisant et associé à justement du négatif. Donc, d'anticiper ça et de lui dire, s'il pleure déjà d'une, c'est pas parce qu'il est mal, c'est parce qu'il nous dit quelque chose, parce qu'il ne sait pas parler aujourd'hui, comme toi, il ne sait pas parler. Et surtout, ce n'est pas ta responsabilité la nuit, c'est papa et maman. C'est nous qui avons voulu ce bébé, c'est nous qui nous en occupons. C'est pas ton rôle.
Je pense qu'en écoutant tout ça, il y a pas mal d'entre nous qui vont, enfin je dis nous, génération de parents, qui vont se rendre compte que finalement, nous, on n'a peut-être pas reçu toutes ces explications quand nos frères et sœurs sont arrivés, ou inversement, on a peut-être eu des frères et sœurs aînés qui n'ont pas reçu toutes ces explications, parce que faut avoir les ressources aussi pour penser à tout ça, et que du coup, ça peut générer des relations frères et sœurs qui vont être biaisées par « Ah, tu m'as gâché mon enfance à pleurer comme ça », ou tu vois, des choses inconscientes.
Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Ça peut laisser des traces. Ouais. Non, ça peut laisser des, comme toute marque émotionnelle, de toute façon, mais oui, ça peut laisser des petites traces, effectivement, dans la relation. Et je terminerai juste, alors on a parlé tout à l'heure beaucoup du temps de qualité, donc même combat pour le sommeil, encore plus ce temps de qualité le soir, et votre rituel, si possible. Alors, c'est pas toujours évident, parce que souvent, les deux vont se coucher ensemble, il y en a un qui va manger au moment où l'autre va se coucher, enfin, ça va être... un peu le bordel le soir au début, mais si on peut en tout cas préserver avec notre grand, quitte à décaler, je suis pas partisane de coucher plus tard, hein, mais parfois quitte à décaler de 5-10 minutes pour avoir quand même ce petit moment de rituel rien qu'avec lui, on se fourre dans son lit, on lui fait des gros bisous, on lui dit qu'on l'aime, on machin, et bébé il est pas là en fait, il dort ou il est avec papa ou j'en sais rien, Et vraiment, c'est hyper important d'aller lui donner cette grosse, grosse dose d'amour seul. Voilà, seul, pas avec bébé dans les bras, pas avec vraiment seul, rien que pour lui. Même 5 minutes, c'est important. Et ça peut être aussi l'occasion, dernier petit point que je m'étais noté, d'aller aussi, on parlait tout à l'heure de la chambre, d'impliquer l'aîné pour la chambre, etc. Et du coup, ça peut être aussi l'occasion d'aller changer un peu la chambre aussi du grand. Alors, plus œil-sommeil, je parle. Alors, par exemple, changer de lit. Parfois, ça peut être l'occasion de faire la transition de lit. Alors, peut-être pas, ça je dis pas ça genre au dernier moment, quoi. C'est plutôt, on essaie d'anticiper. Pour pas qu'il ait aussi l'impression que petit frère, petite sœur viennent lui chipper toutes ses affaires et que c'est pas ça l'idée, mais c'est plus d'aller valoriser en disant bah ça peut être le moment d'avoir un grand lit si tu es prêt, qu'on va venir décorer, qu'on va venir customiser avec des super lumières, avec des super stickers, avec une super parure de lit choupi que t'adores. Enfin bon, d'aller vraiment lui montrer que c'est un vrai cadeau, en tout cas aussi qu'on lui fait. Ça peut être aussi, s'il est un petit peu plus grand, d'acheter par exemple un petit réveil de grand, tu sais, des petits réveils jour-nuit. En plus, ça peut aider aussi pour les enfants qui se réveillent un petit peu trop tôt. Ça peut aider. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça peut être. Des fois, c'est des trucs tout bêtes, mais du coup, comme on a un nouveau lit, on a une nouvelle petite table de nuit avec une nouvelle petite lampe, on peut poser la gourde truc muche trop bien dessus. Enfin, c'est des petits détails, mais en fait. C'est très concret et en fait ils se rattachent à ça quoi, aux nouveaux trucs, aux trucs chouettes, et finalement ils ont plus en tête que leur lit à barreaux ou leur table allongée, c'est bon, elle est déjà dans la chambre d'à côté quoi. Et de le faire progressivement et pas au dernier moment, en tout cas ça peut aussi aider hein, pour le sommeil à créer un bel environnement dans la chambre où on se sent bien, où on est content de rentrer, et ça c'est hyper aidant pour le sommeil déjà, de s'en sentir bien dans sa chambre.
Waouh, ça me donne plein d'idées. J'aurais un milliard de questions à te poser, mais on va arrêter là parce que.
Ouais, j'ai terminé, moi, en tout cas, sur mes petits, ce que j'avais envie de dire aujourd'hui sur le sujet.
En fait, j'avais deux petites questions. Si tu veux aller rapidement,
Oui.
juste me donner un petit point de vue sur le choix du prénom. Est-ce que tu.
Ah,
Ouais, qu'est-ce que t'en penses, toi?
Oui. Ouais. Le choix du prénom. Pour moi, ça doit quand même rester au niveau des parents. Et c'est vrai qu'il y a des enfants qui ont envie de choisir parce que c'est peut-être un peu leur pierre à l'édifice aussi qu'ils ont l'impression de mettre. Le prénom, surtout pour les enfants qui vont à l'école, qui commencent à avoir des copains, des copines. Ah ben ouais, je voudrais bien qu'ils s'appellent Machine comme ma meilleure copine. Oui, bon. Donc en fait, là, c'est peut-être de redire que c'est le bébé de papa et de maman. C'est pas le tien. Toi, tu peux appeler tes poupées comme tu veux. Quand tu seras maman, papa, plus tard, tu appelleras tes enfants comme tu veux. Mais par contre, ça reste le bébé de papa et de maman. Donc, on va choisir son prénom, comme on a choisi ton prénom. Personne ne nous a dit qu'il fallait qu'on t'appelle Lucas. Voilà, c'est parce que papa et maman adoraient Lucas que c'était. Voilà. Mais c'est important que ça reste un choix de couple. Après, on peut événementialiser le truc en disant ben, ça y est, on a choisi le prénom, on essaye de te le faire deviner, s'il est plus grand, la première lettre, ça rime avec truc, ou j'en sais rien. On peut faire un peu une petite surprise. Finalement, ils vont garder ça en tête, hein, ils vont garder le côté un peu festif de l'annonce du prénom plutôt que le prénom en lui-même, finalement. Mais voilà, pour moi, ça doit rester quand même un choix de
Un choix
couple.
parental, ok.
Ouais.
Et autre petite suggestion par rapport je pense aux femmes qui soit sont hospitalisées en fin de grossesse ou aux femmes qui ont un petit bébé qui est en néonate et qui ne peuvent pas rentrer tout de suite à la maison quand le séjour se prolonge un peu. Est-ce que tu as deux, trois clés à
Ouais.
partager pour l'aîné?
Là, c'est vrai que ça peut, surtout si ce n'est pas attendu. Parfois, on peut s'attendre à, voilà, parce qu'on sait que bébé va naître prématuré ou que c'est des jumeaux, on va rester un peu plus longtemps. Voilà, on peut prévoir ça. Quand c'est pas attendu, là, c'est vraiment un gros travail encore au niveau des émotions à faire, à recevoir déjà, et surtout. Expliquer de la manière la plus simple possible, je pense, ce qui se passe. On parlait tout à l'heure des petites photos, des petites choses. Je pense qu'il ne faut pas être dans le trop compliqué dans ces cas-là, d'aller lui expliquer que c'est parce que y a telle, je sais pas moi, telle problématique, que du coup, il a des tuyaux partout, que j'en sais rien, tu vois. Mais c'est vraiment lui dire, il y a eu ça, ton petit frère ou ta petite sœur, je sais pas, il a eu peut-être du mal à respirer, voilà, il a besoin d'un petit coup de main. Du coup, on a besoin de rester un petit peu plus longtemps à la maternité. Mais après, bon, de toute façon, lui, il peut aussi. Je sais pas, je m'y connais pas trop dans les services. Je sais pas si les petits frères, petites sœurs peuvent aller pas trop quand c'est
pas
plutôt
trop les
après,
bienvenus.
quoi, quand ça commence à aller mieux, quoi. Mais avec tous les virus et tout, en plus, c'est peut-être pas le moment. Mais c'est vrai que ça peut être un moment qui est pas forcément bien vécu, donc c'est vraiment d'aller accueillir toutes ces émotions, de l'expliquer de la manière la plus simple possible. Il y a des petits livres qui existent aussi sur ce sujet, donc ne pas hésiter à aller se renseigner pour se mettre vraiment à hauteur d'enfant et en parler. Pas rentrer trop dans le détail, tout dépend de la gravité de la situation, mais expliquer les choses, parce qu'il faut pas qu'il ait l'impression quand même qu'on lui cache des choses, mais expliquer les choses sans rentrer trop dans les détails techniques, on va dire. Et puis après, bah, tout dépend de la durée, mais de toute façon, lui, il va avoir son rythme, il va retrouver aussi son rythme, l'école, la nounou, la crèche, enfin, il va reprendre son rythme. Donc c'est au maximum aussi de l'aider à rester dans son quotidien, de son rythme, ses repères. Mais c'est sûr que c'est un temps pas simple, parce que le repère principal, la maman, si elle n'est pas là, voilà, ça peut quand même bouleverser. Donc être très, très indulgent, très bienveillant avec les enfants à ce moment-là, garder toujours le lien, le contact. On parlait de la petite boîte tout à l'heure, enfin des petits mots, c'est voilà, en tout cas garder le lien, le contact, mais ne pas mentir sur la situation.
Ok,
J'ai
donc
pas, pas, j'ai pas eu beaucoup de, je t'avoue, hein, j'ai pas eu beaucoup
de
de, enfin
situation.
même pas du tout, de situations comme ça en fait, et qui du coup ont été mal vécues par les aînés.
Bah moi je peux en avoir régulièrement, notamment parce que je les vois
Ah oui.
avant en fait les personnes. Mais non, mais c'est hyper intéressant, faire simple, concret, très concret, et jauger voilà l'impact émotionnel au fur et à mesure, communiquer. Et être dans l'indulgence, quoi,
C'est ça.
et de garder les
Ouais,
repères
c'est ça.
quotidiens. Bon, bah, c'est très
Tout à
clair.
fait.
Merci,
Oui, en
Marie.
fait, c'était ça va.
Ça va.
Oui, c'était
Tu
ça.
es bonne dans l'impro, tu sais. Bon, bah,
Bah, merci
Marie,
beaucoup.
merci beaucoup de ton intervention
Ouais,
hyper.
merci à toi. Merci à toi surtout.
C'était hyper intéressant, très voilà, très instructif, et même pour moi, tu vois, qui suis pas axée enfance, mais plutôt périnate côté parental, j'ai appris plein de trucs, voilà, notamment de pas ouvrir Gaston le soir, Gaston la licorne.
Bah, il y a Gaston qui aide à s'endormir. Gaston veut dormir,
Ah,
ça
c'est
c'est
vrai?
pas mal.
Ok, parce que nous, les deux petits de
Avec des petits
4 ans.
exercices de
Ah, trop bien. Parce que nous, les deux
sophro.
petits de 4 ans, ils adorent Gaston la licorne avant de dormir, tu vois. Mais c'est eux qui demandent, oh, on veut Gaston. Bon, bah, d'accord. Mais ouais, on essaiera plutôt le matin. Et.
Non, après, sur des petits livres, ça va, si t'es soft, mais c'est plus de leur dire, tu vois, pas juste avant de dormir. Alors, ça a été dur aujourd'hui.
Ouais, oui.
Enfin, enfin, tu vois, d'aller ressasser le
Ouais,
truc,
non,
alors
mais
qu'en
bien
fait,
sûr.
c'était
Comme pour nous.
trop
Comme pour nous, en
bien.
fait. On
Oui,
n'a
voilà,
pas
c'est
forcément
ça.
envie de s'endormir avec les infos qui nous parlent de trucs horribles
Voilà, c'est
et
un
de
peu ça.
ressasser. Ok. Bon, il y a. Je
On peut
sais
le faire
pas.
avant.
Ouais, avant. Je sais pas comment tu t'appelles. Petit instant de bonheur qui dit merci pour tous ces conseils. Ben ouais, merci beaucoup, Marie.
Ben non, merci à toi aussi pour toute ta vision du début aussi qui était hyper intéressante, peut-être pour les parents qui se posent. Moi, j'avais beaucoup de mamans qui m'ont contacté en disant que le live allait les intéresser, bah aussi par rapport à la future conception du deuxième. Pas que les parents qui sont en galère en ce moment, mais en tout cas, ouais, on a réussi à balayer pas mal de sujets. Je suis contente en une bonne heure, donc
Ah ouais, dis donc.
c'est complet, donc c'est
Ouais,
chouette.
mais on est hyper
Et ça.
complémentaires. C'est là où je me dis, en fait, je fais vraiment
Je vais
bien
venir
de.
travailler à Vannes, hein, et puis...
Tu sais que j'étais en train d'y penser pendant que tu parlais. J'étais là, faut qu'elle vienne quand même, faut qu'elle vienne. Bon, je parle souvent de toi quand même parce que je sais que tu travailles en visio et en fait, c'est deux visions hyper complémentaires. Donc, tout ça pour vous dire que nous, on est disponible en accompagnement vraiment individuel en fonction de votre situation, de vos éventuelles problématiques à vous et pas à Pierre-Paul Jacques, comme on peut l'évoquer là. Aussi sur du ponctuel par rapport à ce que vous traversez, quoi. Donc, toi, Marie, tu es plus sur le côté enfant et comment aborder la relation à l'enfant. Ah non, je garde Marie près de moi. C'est les bains de Noléa.
Oui. Oui, non, j'ai pas prévu de partir, Yolène,
Ah, Yolaine.
Pas
Ah,
tout de
mais
suite.
oui.
Oui, c'est oui.
D'accord. La famille Apolline.
Voilà,
Tu sais,
c'est ça.
Je reconnecte un peu. Et Karel, merci, c'est un peu rassurant quand on n'a pas bien vécu le premier et peur de concevoir le deuxième. Mais tu sais que je suis là et tu vois, Marie, elle est là pour l'après aussi, là où moi je suis un peu plus nulle. Chacun sa spécialité. Non, mais voilà, c'est moi mon truc, hein. Mais voilà, chacune son travail, sa spécialité. Elodie, merci pour ce super live. Mais gros, gros bisous, Elodie, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Étant à 36, c'est ça. Mon deuxième enfant est légèrement en panique. Ce live était une pépite. Ah, ouais, c'est vrai,
merci.
C'était une pépite.
Ça fait super plaisir, vos retours là. C'est trop cool.
Carrément.
C'était notre mission. C'était de vous donner un peu de baume au cœur et de bons conseils.
Avec plaisir, Amélia. Et ben gros bisous à tout le monde. Et puis on reste dispo pour discuter de tous ces sujets, voire plus en fonction de vos besoins.
Merci beaucoup. Merci à toi, en tout cas.
Je t'en prie,
ta gentillesse toujours.
Bah, merci beaucoup. Et merci à toi aussi, t'es très claire. J'aime beaucoup ta façon, ta pédagogie, je la trouve exceptionnelle. Je mettrai le lien de ton contact dans le podcast. Comme ça, s'il y a personne qui a besoin de te contacter, ce sera direct.
Chouette, merci.
Bonne fin de journée
à
tout le monde.
À bientôt. Oui, à bientôt et au revoir tout le monde.
Ciao.
Ciao.
Merci pour votre écoute et votre confiance. Si vous aimez mon podcast, vous pouvez m'aider à le rendre plus visible en me mettant une note et un avis sur votre appli de podcast. Vous pouvez aussi partager auprès de vos proches qui sont concernés. Et si vous souhaitez vous aussi être accompagné sur votre chemin du désir d'enfant et de la maternité, mes séances se font au cabinet à Vannes ou à distance par visio. Envoyez-moi un message privé sur Insta ou un mail à edwige@untempsournaitre.fr. À bientôt.